maintenant, je passe la parole à Jacques, l'UPMC, et Jacques a joué un rôle, de mon point de vue, extrêmement important, parce que en 2000, alors bon, les micros, je peux vous raconter ça. Moi, je fais le TIC du CNRS en 2009, pendant plusieurs années, et j'ai eu une collègue qui m'a signalé des problèmes vraiment graves qui concernaient entre le CNRS et la revue Elsevier. Je ne rentre pas dans les détails ici. Et j'ai donc fait toute une enquête pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et dans cette enquête, j'ai interviewé Jacques, qui m'a raconté en détail la négociation qui a eu lieu pendant l'année 2010 pour la signature du contrat Elsevier avec l'université Pierre et Marie Curie. D'ailleurs, il va probablement vous en parler maintenant. Et l'université UPMC a refusé les conditions d'Elsevier. Ils sont allés en force. Et Jacques a eu le courage d'écrire tout ça. C'est-à-dire quand je l'ai interviewé, il m'a dit des choses tellement intéressantes. Je lui ai dit, Jacques, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien mettre ça par écrit et le signer? Et vous verrez, très important, parce que ça a permis... Le gros problème qu'on a, c'est que les chercheurs ne savent absolument pas comment les bibliothécaires n'aient abonnement aux revues. Et quand ils le découvrent, là, c'est le gros choc. Et Jacques, avec son témoignage, a justement apporté une information que nous, chercheurs, on n'avait pas. Et ça nous a permis d'ouvrir les yeux. Donc, c'était d'être ici. Et
merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité.
J'entends en tout cas. De la musique.
Oui, c'est moi qui vous le suis pas sûrement. Je ne suis pas sûrement.
Bon, bah merci.
Comme
de
je
nous
ne suis pas sur mon ordinateur.
Mac,
voilà, je pense que ça va être un peu difficile. Paris.
Ah oui.
Paris.
Ah oui.
Mais comme je ne sais pas arrêter le.
Ah bah,
écoute, en fond sonore, ce serait. Voilà, les parleurs sont là.
Les loups, les loups étaient loin de Paris. En Croatie, en Germanie, étaient loin de Paris.
Je ne peux pas le faire avancer. Donc je crois qu'on va s'arrêter.
Si c'est à ceux qu'on pense, ils sont partout. Il n'y a pas qu'à Paris.
Les loups sont arrivés, mais les loups sont repartis. Cette vision née. À travers une histoire que je vais vous raconter. En fait, vous verrez, c'est peut-être un petit peu indigeste au niveau texte, mais c'est l'histoire, effectivement, que m'a demandé de raconter donc, Marie, de comment une grande université UMC a été confrontée au problème de réabonnement qui n'était plus possible à des revues à travers un énorme publisher comme Elsevier. Alors, ce qui a déclenché un petit peu le problème, parce qu'il faut bien se rendre compte que on n'est pas a priori ouvert à faire de l'open access comme ça, ça ne nous tombe pas dessus du jour au lendemain. Les chercheurs, ils ont leur inertie, je vais en reparler un petit peu après, d'autres en parleront après moi, Serge notamment. On suit une routine et on n'est pas, on ne va pas thématiquement déposer dans des archives ouvertes, sauf quand les bibliothèques commencent à nous dire « Ah ben, on ne peut plus vous abonner à cette revue-là. » Et c'est avec Elsevier, notamment Elsevier. Et les éléments déclencheurs, ça a été cette prise de conscience qu'on n'allait plus pouvoir paiement énorme et qui était demandé donc par ces gros publishers qui regroupent, mais ça, Pablo vient d'en parler, qui regroupent un nombre important, ici c'était plus de 1800 titres, auxquels on s'abonne et auxquels on n'est absolument pas intéressé pour 75% des titres en question. Donc il y a toute une politique qui était faite par les groupes, un bouquet à des tarifs qui étaient bon, pas très très chers finalement si on regarde le prix de chaque revue, mais parce qu'on aurait pu dire voilà, on va choisir simplement et puis, on va s'abonner, ça nous coûtera beaucoup moins cher. Mais non, les tarifs préférentiels faits pour ce bouquet faisaient que ces tarifs étaient dissuasifs par rapport à l'abonnement en particulier. En plus de ces abonnements, de l'augmentation annuelle, qui avant les années 80 était autour de deux chiffres en pourcentage, hein, ce qui est quand même considérable, et qui est devenu autour des années 2005-2007, pour se stabiliser autour de 5%, ce qui était quand même sans rapport avec l'augmentation des crédits que pouvaient recevoir les universités et à plus forte raison, et qui devenait donc à terme insoutenable. Et il était difficile de se désabonner, bien sûr, c'est-à-dire on ne pouvait pas diminuer C'est ce qu'Elsevier rappelle le chiffre d'affaires historique, qui est en fait le volume auquel vous êtes sans parents, ce qui était quand même limité. Alors, je reviens un petit peu à l'aspect historique qu'a largement évoqué Pablo tout à l'heure. Voilà. Donc, les de repère de ce qui sera plus tard archive au début des années 90. Ensuite, on peut sauter, bon, il y a beaucoup d'évolutions, des initiatives centrales qui est créée pour la médecine, etc. Et puis, c'est l'initiative 2, suivie de la première déclaration de Berlin, en 3, et voilà, et suite de 3 autres. Et comment ça s'est présenté pour notre... Ben, nous, on commençait donc à partir de ces éléments déclencheurs dont je vous ai parlé, à l'UPMC, où on a quand même un petit peu moins de 4000 chercheurs, ça fait quand même déjà beaucoup. On va se poser cette question, est-ce que la solution, ce ne serait pas de verser dans les archives ouvertes ? On a fait son chemin tout doucement, parce que bon, 4000 chercheurs, c'est lourd, une grosse institution comme ça, c'est lourd à manœuvrer. Et il a fallu attendre 2010 pour qu'on signe déjà la déclaration de Berlin. Alors, pour rappeler un petit peu ce que c'est que... Ce que disait cette déclaration de Berlin, qui est quand situe bien la problématique et puis les solutions, elle porte donc sur le libre accès à la connaissance en sciences exactes, sciences de la vie, sciences humaines et sociales, et les signataires réclamaient la mise à disposition de la littérature scientifique mondiale. Et pour ça, ils souhaitaient qu'on encourage les chercheurs et boursiers à publier leurs travaux en libre accès, agir pour que les publics soient jugés lors des évaluations et intervenant dans le cadre de la promotion professionnelle et les mérites intrinsèques du libre accès par le développement d'outils, etc., notamment d'outils libres. Alors, fin 2012, il y avait 360 signataires de cette déclaration qui, au début, a été signée par des individuels, puis ensuite par les grosses EPS. Nous entrons là-dedans seulement en mai 2010, mais... C'est déjà un premier élément. Et se nouer, parce que le régime de monopole d'Elsevier s'accompagne en plus à l'échelon national, qui est mené par Couperin, bon, avec plus de détails ici, mais cette négociation tarifaire opaque, les universités sont informées. On n'a pas le droit de publier, notamment les contrats, Pablo en a parlé tout à l'heure, et tout ça ouvre la porte à une intimidation de la part d'Elsevier qui menace de, si quelqu'un veut se retirer du groupement d'achat, dont faisait partie, eh bien, menace de couper les... D'abord, de faire payer beaucoup plus cher les autres, et comme nous avions, nous, un chiffre d'affaires qui était de l'ordre de 1 million d'euros par rapport au chiffre que tu présentais tout à l'heure, c'était toute la documentation. Nous, c'était 1 million d'euros rien qu'avec Elsevier. Bien sûr que les autres universités, les petites universités notamment, voient d'un mauvais œil la possibilité de tout d'un coup se retrouver avec l'obligation plutôt de payer, de répartir ces 1 million d'euros sur l'ensemble des universités, dont les petites. Donc l'UPMC avait d'abord cherché à se retirer de ce consortium et de ces négociations, mais les pressions des autres universités, finalement, étaient restées dans le rang. Mais j'ai expliqué que se remettre en route donc en 2010, on serait peut-être amené à prendre des mesures un peu plus drastiques. Et qui peut insister là-dessus ? On a commencé à travailler avec, comme on dit, la base, hein, parce que c'est clair que ce n'est pas des décisions du sommet qui arrivent à faire avancer ces choses-là. On a essayé de aider un petit peu les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les doctorants à cette question à travers le directoire de la recherche de l'UPMC, les UFR, qui nous ont tous soutenus à partir de mai 2010. On a commencé à faire cette affaire tout à fait sans aucune réticence, et qui nous ont confortés dans l'idée de nous retirer de ce groupement de commandes à nos risques et périls, et peut-être aux risques et périls du groupement de commandes, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et on a fait valider cette décision par un conseil scientifique d'université en juin 2010, puis une AG des directeurs d'unité en novembre. Donc les choses étaient bien ancré, je dirais, dans la base de l'université pour pouvoir, avec un certain poids, intervenir au niveau de la négociation. Et comme toujours, Elsevier, le contrat se terminait fin 2010. Elsevier fait toujours ses propositions, ses dernières propositions, au moment où il est difficile de retourner vers sa base. C'est pour ça que nous, on avait tenu à assurer un petit peu notre base au départ. Et Elsevier, dans ses dernières propositions, impose le maintien du chiffre d'affaires historique des établissements, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de diminuer pour nous un peu plus d'1 million d'euros. Et donc, il n'est pas possible, ça n'est, aux universités dont la nôtre, de mener une politique documentaire qui corresponde réellement aux besoins scientifiques qui sont les nôtres. Alors, ce est avalisé dans un premier temps par les universités et le CNRS, sous prétexte, et c'est bien réel, je pense, de ne pas risquer de pénaliser la desserte des communautés scientifiques dont ils dépendent, qui sont plutôt avec eux, ne pas les pénaliser des revues. Et alors, on prend la décision, on forme officiellement les négociateurs de Couperin que l'UPMC se retire du groupement de commandes. Bon, alors c'est un peu lourd comme texte, mais je vais vous résumer un peu ça. Elsevier tente alors à ce moment-là, donc en décembre, fin décembre 2010, parce que ne plus servir, puisque l'UPMC se retire. Mais l'UPMC, c'est quoi? C'est des chercheurs, pour la plupart et pour la grande majorité du CNRS, et d'autre part des enseignants-chercheurs, dans des labos qui sont pratiquement uniquement des UMR, CNRS, UPMC, et donc desservis aussi par le CNRS pour les revues Elsevier. Donc, on avait un petit peu préparé nos arrières en se disant, si Elsevier coupe les robinets côté UPMC, on pourra toujours se servir du côté CNRS. Alors, Elsevier, bien sûr, sentant venir le contournement un petit peu de leur... Elsevier, à ce moment-là, fait pression sur le CNRI à ne plus desservir les enseignants-chercheurs de l'université. Alors là, bon, je dois dire qu'on a bénéficié d'un soutien massif du CNRS à ce moment-là. Serge Bourin, le responsable de la DIST à ce moment-là, et nous avons, avec l'accord du président Alain Fuchs. Non, c'était Alain Fuchs déjà. Et Elsevier, à ce moment-là, menace de refuser et à l'UPMC, de prendre le risque de couper toute la France de l'accès aux revues Elsevier. Mais, alors tout ça laisse passer Noël, et mi-janvier, Elsevier finit par reprendre contact quand même avec l'UPMC, et une négociation marathon va s'engager sur la fin janvier. Alors les demandes sont tout à fait claires. On demande un désabonnement, ce que j'appelle une réduction du chiffre d'affaires historique, de l'ordre de 300 kilo-euros, soit environ 30% de l'air. Et la négociation à Couperin, enfin, c'est très compliqué. Chaque jour, la présidence répond, etc. Et finalement, on arrive quand même à obtenir, au terme de cette négociation, une réduction de l'ordre de 21% de ce chiffre d'affaires historique et un engagement de l'éditeur, du publisher, de mettre au point un nouveau mode dans les deux ans qui viennent, et c'est-à-dire que fin 2012, économique, c'est-à-dire d'abonnement, sachant que notre de Couperin globalement, et particulièrement l'UPMC, était d'être maître de quoi en matière de revues et donc des coûts qui... Alors j'ai mis une petite déclaration de du vice-président de l'époque de l'UPMC, qui est maintenant, qui est Jean Chambaz, qui est maintenant notre président, qui disait « Si certaines voix s'élèveront sans doute pour indicativement que l'UE a défendu sa propre cause, on pourra surtout regretter que suite à l'affirmation de la position de l'UPMC dès juin 2010, d'autres établissements n'aient pas emboîté le pas. » Effectivement, il y a eu quand même un manque de solidarité évident dans cette affaire, qui se justifie par le fait qu'il y a des petites universités, il y a des grosses universités dans ces groupements de commandes, que les intérêts ne sont pas tout à fait les mêmes, et que ça explique que la solidarité est souvent difficile. Néanmoins, il y a eu donc beaucoup de pression auprès du président de l'époque pour accepter les conditions d'Elsevier. On les a acceptées et je pense que c'était effectivement qu'une demi-victoire. Pourquoi ? Parce que même si le chiffre d'affaires du PMC a été diminué de 20 à quelques pourcents, le contrat a tout de même été signé pour 3 ans et a prévu tout de même une hausse des tarifs qui était absolument pas négligeable, qui était de plus de 4% par an, entre 4 et 5%. Or, à la même époque, une étude faite par un cabinet financier international, Bernstein Research, prédisait que le taux de croix inférieur à 2% au cours des années suivantes et que si le refus du Big Deal, c'est-à-dire de ces abonnements Freedom de 1800 titres et plus, s'il y avait une contestation qui s'étendait à un certain nombre de pays, cette croissance. Donc, ils annonçaient en mars 2011 que la politique d'Elsevier allait être de chercher à bloquer sur 3 ans des comptes, celui dont je viens de vous parler, avec des taux supérieurs à 15%, quitte à lâcher un peu sur certains aspects secondaires. Et c'était produit avec nous. Donc, demi-victoire. Alors, à la suite de ça, je continue toujours sur Elsevier parce que c'est quand même très... Les publishers, tu as montré tout à l'heure les chiffres de supérieurs en augmentation annuelle et dont la politique est grosse. Quelles étaient les perspectives qu'avaient ces gros publishers à l'époque en reconduisant ce peu de Léonin? Eh bien, c'est qu'ils sont conscients, je vous ai dit ce que prédisaient les cabinets d'affaires financiers, ils étaient conscients qu'à terme, le modèle et d'abonnement disparaître, ça c'était une autre question, mais que ça allait disparaître et que le libre accès allait se développer. Et donc, ils allaient miser maintenant sur la valorisation des métadonnées. Et là, ils ont mis en œuvre tout un tas de logiciels qui vendent extrêmement cher. Et aussi sur les datas de la recherche. Alors là, les datas de la recherche, c'est les données qui sont contenues dans les articles et dont ils voudraient bien être propriétaires. Tout ça de développement actuellement au niveau des grands publishers. Et c'est une bagarre pour le moment au niveau des copains qui se produit. Et je pense que... Je dois dire quand même que Elsevier n'a pas... ne porte pas toute la responsabilité de ça. J'ai dit que les autres gros publishers étaient également dans la même ligne, ce qui est beaucoup plus grave. Société savante vont dans le même sens et leurs tarifs de manière tout aussi importante, sous des prétextes qui sont de subventionner des actions caractère entre guillemets humanitaire de distribution de leurs arguments justifiables. Alors, ce nouveau modèle économique, là je vois que le temps passe vite, ce nouveau modèle économique auquel Elsevier s'était engagé discute la communauté scientifique française, c'est effectivement discuté de manière très unilatérale en fait, une douzaine d'acteurs français dont les quelques grands EPST et des universités. Mais en fait, cette discussion, ça a été ça. L'imposition par modèle qui ne changeait pas grand-chose par rapport au précédent, sauf que l'évaluation du coût de leurs abonnements, soit aux revues, soit à ce gros bundle, ils ajoutaient dans les paramètres qui servaient au calcul de ces abonnements, l'intensité de la production scientifique de l'établissement. C'est-à-dire qu'on appelle les FTE, c'est-à-dire les gens qui sont susceptibles d'accéder à ces publications. Mais plus un établissement publie de revues, eh bien, plus il paiera cher pour... plus il paiera cher pour consulter. Donc, modèle coût dissuasif toujours des abonnements isolés par rapport à la Freedom Collection. Et donc, le groupe de travail a exprimé son désir et a dit de ne pas se trouver engagé par ce nouveau modèle. Le contrat de 3 ans était nouvelle négociation d'un contrat à courir, on ne sait pas sur combien de temps, et ni dans quelles conditions financières. Sauf que le nouveau modèle qui était annoncé ne laissait pas présager grand-chose. Et effectivement, la négociation donc, a été menée par Couperin, qui est donc cet organisme qui regroupe les EPST et les universités. Et rapidement, on a vu qu'il n'y aurait pas de solution. Quand même, il y avait une unité, cette fois-ci, un peu plus grande, du côté du groupement d'achat, et qui essayait de faire un peu plus de résistance auprès d'Elsevier. Et Elsevier, alors je ne sais pas, bon, c'est un peu mystérieux comment c'est arrivé, mais la solution d'une licence nationale, une licence payée par le ministère de la Recherche, a été poussée. Et finalement, c'est ce qui est accepté, c'est un peu sur les ciels, mais on peut penser que Elsevier a fait aussi un lobbying qui n'était pas négligeable, auprès du ministère. Et finalement, c'est une liste qui a été prise auprès d'Elsevier. Ce qui veut dire que, côté gain, 200 établissements qui allaient être desservis par la Freedom Collection, mais 400, dont certainement 40 qui ne consultaient pas avant, je ne sais pas s'ils consulteront. Mais surtout, ce nouveau contrat était fait, cette nouvelle licence durée de 5 ans, avec un taux d'augmentation qui était relativement raisonnable, et encore qu'on ne doive pas pour le moment le divulguer. Voilà, ce sont des contrats secrets publics classiques, alors que ça devrait, ça je pense que Daniel Boursier nous le dira aussi, ces contrats donc ne sont pas publics, bien que ça devrait relever des contrats publics, on s'engage pour 5 ans sur un modèle qui est complètement obsolète, puisqu'on sait quand même que fait son chemin. Donc, qu'est-ce qui a résulté de tout ça? Eh bien, ce qui a résulté, c'est que le ministère a prélevé directement l'université, la nôtre notamment, et puis les autres, du montant de l'abonnement Elsevier, sans demander son avis, c'est une licence nationale. Donc, on peut voir que l'indépendance des universités a été encore bafouée, et que le choix, en tout cas, n'a pas été donné. Alors, je vais peut-être aller un petit peu plus vite maintenant. Donc, ceci a coupé l'herbe sous le pied à toute résistance et à tout modèle alternatif qui aurait pu être proposé par les EPST et les universités. Bon, donc, on est ce type de négociation à une multinationale, je rappelle, mais parce que là, je travaille sur Springer et pas sur Elsevier et pas Reed Elsevier, ce qui est un petit peu différent. Mais enfin, ce sont des chiffres faramineux, c'est-à-dire 36%, plus de 30% de bénéfices qui sont bien sûr versés à des actionnaires au détriment de la recherche scientifique, bien évidemment. Alors, les choix du PMC. Les choix du PMC, et depuis déjà un certain temps, d'encourager le versement dans les archives ouvertes, dont il sera question tout à l'heure largement. Donc on voit qu'au fil des années, il y a une croissance raisonnable du dépôt des publications du PMC dans le portail de HAL, qui s'appelle HAL UPMC, que que le dépôt des notices, lui, est relativement stable, mais augmente aussi. Mais c'est tout de même pas un raz-de-marée dont on aurait besoin pour réellement pouvoir contrer pouvoir passer à un autre type de fonctionnement, d'avoir ces abonnements qui coûtent extrêmement cher. Et on se trouve dans cette période transitoire qui est très difficile parce que donc il y a des abonnements à payer, il y a des revues en gold puisque c'est le choix d'Elsevier et des grands publishers de faire du gold auteur-payeur, c'est-à-dire on va payer 3 000 à 4 000 euros. Et d'autres, il se met en place doucement. Donc cette période intermédiaire est très difficile. Et donc l'UPMC a fait le choix d'encourager ses dépôts en facilité au niveau des bibliothèques qui vont aider au en se préparant peut-être à être un peu plus coercitive, obligation au labo de sous peine d'être un peu pénalisé au niveau de leur crédit récurrent que leurs chercheurs versent les publications. On contribue aussi à travers BSN. BSN, c'est la Bibliothèque Scientifique Numérique. Je ne sais pas si quelqu'un va en parler dans le détail. Personne. Alors, je dis quand même deux mots, je suis déjà à 30 minutes, mais je vais aller vite. C'est une BSN, Bibliothèque Scientifique Numérique, qui est une structure qui a, je ne sais plus la date exacte, il y a quelques années, il y a 3 ans peut-être, quelque chose comme ça, par la recherche, et servir de conseil et de forming à des solutions pour aider à la publication et faire des propositions au ministère. Donc là-dedans, il y a donc 9 sections actuellement. La 4 est consacrée aux archives ouvertes et la 7 aux publications, à l'édition scientifique. La 7 est très ouverte sur l'édition scientifique en libre accès. Et la 4 est ouverte aux archives et se consacre essentiellement aux archives, aux publications scientifiques. Dans ce cadre-là, on travaille actuellement à l'élaboration d'un addendum au copyright. Donc, disons, on a mis le focus un peu sur les copyrights, c'est-à-dire donc c'est ce dessaisissement que font les auteurs de leur droit à l'article qu'ils ont publié. Et donc, il y a un addendum là qui est en cours d'élaboration, enfin qui est élaboré, qui va être soumis au ministère, réserverait les droits des auteurs à mettre dans une archive, à déposer leur article dans une archive ouverte, moyennant, et qui, d'après les notés européennes, ne devrait pas excéder 6 mois pour les revues de sciences dures, STM, et un an pour les revues SHS. Alors là, on met le doigt un petit peu sur la différence qu'il y a entre SHS, les sciences humaines, et les sciences dures. L'UPMC maintenant fait partie d'un press, on appelait ça les presses, la Sorbonne Université, dans lequel se trouve Paris 4, peut-être Paris 2, Compiègne, et le Muséum national d'histoire naturelle. Donc, une plateforme beaucoup plus large maintenant des sciences humaines. Et là, les problèmes sont très différents parce que la publication en sciences humaines n'a pas du tout les mêmes traditions. Il n'y a pratiquement pas de gros publishers, ce sont des toutes petites éditions. Donc, il y a des intérêts à préserver qui sont certainement très différents. Et il y a une optimisation à faire. Et pourtant, on a montré par des études qui sont, je pense, assez peu contestables, que lorsque, même en sciences humaines, on met son article en libre accès, eh bien, il est 2 fois plus consulté que lorsque il est des abonnements classiques. Il y a développé cette collaboration avec les SHS. Et puis, je dirais, le dernier point, j'en dirais pas. Pas grand-chose, mais tu l'as un tout petit peu évoqué. Travailler au développement de le peer reviewing, l'évaluation par les pairs, soit faite de manière beaucoup plus transparente, à une discussion à l'ensemble de la communauté scientifique, en fait. Voilà, ce sont un petit peu des vues utopiques. Il y a des modèles qui sont déjà en cours, qui sont déjà proposés, et ça peut constituer en tout cas une vue d'avenir intéressante. Alors là-dedans, il y a des freins et des espoirs. Les freins, c'est l'inertie des chercheurs, mais Serge va en parler tout à l'heure. Manque de solidarité des États ministères, je l'ai laissé entendre. Mais il y a des espoirs, il y a des jeunes. Pablo en était un bon exemple tout à l'heure. Et le BSN est tout de même un organisme dynamique qui, je pense, va être un organe de, un petit peu de pression auprès du ministère. Et que malgré le manque de solidarité dont je parlais, il y a tout de même, face à la crise, une solidarité de fait des établissements qui se met en place. Voilà, j'ai terminé.